Audrey Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'équipe des services en accessibilité universelle chez Altergo. Est-ce que ça fait longtemps?
Non, ça fait quelques mois, mais il y a maintenant 2 ans que je travaille chez Altergo.
Ah, d'accord. Ben bravo pour cette promotion, c'est ainsi qu'on peut le dire.
Merci beaucoup.
Alors, Madame Beaudoin, chez Altergo, vous offrez sur le site web, j'étais en train de le regarder, je l'ai regardé aussi hier, là, un guide pour des événements accessibles et puis vous offrez des formations. Est-ce que vous constatez qu'il y a plus de demandes?
Oui, mais on constate une sensibilité qui est de plus en plus grande pour les questions d'accessibilité de façon générale.
Ah oui.
Mais je dirais que depuis le début de la pandémie, la grande question, l'intérêt qui est très marqué, c'est pour les questions d'événements virtuels. Donc, les gens ont été obligés d'adapter rapidement le format de leurs activités, de leurs événements, puis veulent s'assurer de continuer à répondre finalement aux besoins des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, on a reçu beaucoup de demandes dans ce sens-là.
Et est-ce que l'accessibilité des événements est une préoccupation qui prend de l'ampleur?
Je pense que on sait qu'au Québec, là, il y a 33 % de la population qui estime avoir une limitation fonctionnelle. Les gens se sensibilisent de plus en plus à cette réalité-là, à cette statistique-là, donc, qui sont conscients quand ils organisent un événement que c'est le tiers de la population qui peuvent toucher là, en respectant les principes de l'accessibilité universelle, voire plus. Parce que quand on parle d'accessibilité universelle, c'est sûr qu'on parle des besoins des personnes qui ont une limitation fonctionnelle, mais le but, c'est vraiment de répondre aux besoins de tout le monde.
Mm-hmm.
Donc, pour s'assurer un bon taux de participation, les gens sont conscients là, qu'il faut suivre cette belle tendance qui est l'accessibilité.
Oui, et il y a ma recherchiste qui me disait, on pourrait espérer que ça devienne aussi important que l'organisation d'un événement vert.
Bien, on le souhaite et on travaille beaucoup en ce sens-là. Là, nous, on veut vraiment que ça devienne une tendance, une mode, dans le fond, sur laquelle on peut chercher.
Oui, une mode permanente.
Exactement. Oui,
et justement, c'est important de commencer le processus dès le commencement de l'organisation d'un événement si on veut se simplifier la vie et même réduire les coûts de l'adaptation. Donc, au bout du compte, tout le monde est gagnant.
Bien, tout à fait, vous le dites, hein, la clé, c'est de planifier, en fait. La très grande majorité des étapes vont donc se prévoir avant l'événement. Quand on a déjà planifié nos actions, puis prévu un budget qui est dédié à l'accessibilité universelle à l'avance, bien, on s'évite des petits imprévus, puis on fait des choix plus judicieux aussi. Hein.
Mm-hmm.
Je prends l'exemple de choisir des toilettes chimiques pour un événement extérieur, bien, s'assurer d'en prévoir qu'ils soient déjà adaptés.
Oui.
Ça permet de ne pas faire ce choix-là a posteriori qu'on n'a pas calculé, juste de choisir le site, de bien choisir le site de l'événement pour s'assurer qu'il soit le plus accessible possible, bien, on s'assure de ne pas avoir à apporter des adaptations postérieures qui vont représenter un coût finalement qu'on n'a pas nécessairement prévu. Même chose si on nomme à l'avance un responsable d'accessibilité universelle, bien, on va s'assurer que lui soit informé des différents besoins et qu'il s'est préparé à y répondre là, pendant l'événement.
Et à part ce dont vous venez de parler, donc les toilettes accessibles, une personne sur place aussi pour bien diriger la circulation, quels sont les incontournables en matière d'accessibilité universelle une fois qu'on est sur place?
Bien, tu sais, comme je dis, la plupart va se calculer un petit peu avant. Fait que si on a déjà visité le site avant l'événement pour s'assurer de différents éléments, on va être en mesure d'offrir un environnement qui a, par exemple, des stationnements pour détenteurs de vignettes, des débarcadères pour le transport adapté, une signalisation claire avec une personne désignée pour orienter puis accompagner les participants, par exemple. On a déjà parlé des toilettes accessibles, mais bien sûr, l'entrée accessible vers les bâtiments de l'activité va être intéressant, en fait, va être très important aussi. Puis au niveau des événements extérieurs, bien, ça va être d'être très attentif à certaines installations. Là, je prends par exemple les billetteries, les kiosques, les différentes installations pour manger, pour acheter de la nourriture. Si on a par exemple un spectacle avec un auditoire, bien, on pourrait s'assurer d'avoir des zones réservées pour les personnes qui sont à mobilité réduite dans l'assistance.
Je me demandais si il y avait des événements modèles, des événements qui pourraient inspirer d'autres promoteurs ou d'autres organisateurs d'événements?
Ah, c'est une bonne question, ça.
Oui. Ben, peut-être une prochaine. Je ne sais pas
si
vous avez
cette question pour une prochaine.
Oui.
Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a des enjeux avec les événements à l'extérieur, des contraintes qu'on peut rencontrer des fois qui vont faire en sorte qu'on veut essayer le plus possible de. C'est sûr que n'importe qui a prévu à l'avance toutes ces petites caractéristiques-là, ça va vraiment faire un grand changement. Ça peut devenir un événement modèle. On encourage tous les organisateurs d'événements à vouloir être la prochaine personne qui est identifiée comme étant le modèle d'accessibilité.
Et c'est important aussi, quand on communique justement notre événement, que les communications soient accessibles. On pense aux médias sociaux, exemple si on produit une vidéo.
Oui, vraiment, tout à fait. Donc, on va s'assurer dans nos communications que nos publications de base soient accessibles. Je parlais de vidéo, justement, de prévoir des sous-titres, des encadrés LSQ, par exemple, va permettre de rendre la vidéo plus accessible, transmettre les différents documents, si on a besoin de transmettre des documents, par exemple, dans des invitations et tout ça, en format accessible. Donc, par exemple, privilégier le format Word plutôt que PDF. Donc, ça, c'est vraiment pour les publications de base. Il y a plusieurs principes à mettre en place comme ça. Je dirais qu'en plus de ça, ça va être intéressant de prévoir différents formats substituts pour communiquer l'information.
Comme quoi, par exemple?
Ouais, des fichiers audio numériques, des textes en rédaction sont clichés. Si on a la chance d'avoir peut-être des modèles papier, là, matériel, on peut prévoir du braille, des gros caractères. Donc, c'est vraiment en dédoublant les supports d'information qu'on va s'assurer d'atteindre tout le monde dans nos communications, finalement. Ça, c'est vraiment pour qu'il y ait des formats d'utilisation. Je dirais que la communication accessible, ça touche aussi beaucoup ce qui est du niveau du contenu. Donc, lorsqu'on communique, par exemple, quand on lance des invitations, on va chercher à informer le plus possible les participants du niveau d'accessibilité des différentes installations et des services qui sont en place. Donc, la clé, c'est vraiment de rester transparent, d'informer les gens le plus possible pour ce qui est accessible, mais aussi de ce qui ne l'est pas, pour permettre à tout le monde de faire un choix éclairé, finalement, sur leur possibilité de participer à l'événement.
Et en terminant, Mme Beaudoin, on associe beaucoup, la plupart du temps, en tout cas plusieurs personnes, l'accessibilité au fauteuil roulant ou au handicap moteur, mais il y a d'autres handicaps, il y a d'autres types de limitations fonctionnelles.
Oui, tout à fait. On compte sept types de limitations fonctionnelles. Donc, les besoins sont très diversifiés, puis les différentes dons outils pour y répondre vont être très diversifiés aussi. Donc, on a bien sûr les personnes qui ont des déficiences motrices, vous l'avez nommé. On a aussi les personnes qui ont des déficiences auditives ou visuelles, qui vont avoir des besoins au niveau de l'accès à l'information, de la communication, de la signalisation. On a les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble de langage-parole qui pourraient avoir des besoins au niveau de la communication, des interactions. Par exemple, en mettant en place des textes simplifiés ou des pictogrammes. Les personnes qui ont un trouble de santé mentale aussi, avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme, peuvent bénéficier d'un climat qui est plus accueillant, chaleureux, ce qu'on appelle en anglais le safe space, là, pour éviter les situations finalement d'anxiété qui peuvent survenir de des organisations, puis permettre vraiment d'avoir une expérience positive et accessible.
Bien, c'est bien intéressant. Si les gens veulent en savoir plus sur vos formations, vos services, une adresse à retenir, altergo.ca. J'imagine que vous avez aussi une page Facebook.
Tout à fait. Donc, je vous invite à consulter notre site web où on a un formulaire en même temps. Vous pouvez nous demander pour toute demande de service. Donc, oui, on a nos formations là, sur l'accueil des personnes qui ont une limitation fonctionnelle, mais aussi sur l'accessibilité universelle des événements. Et on peut aussi prévoir des marches exploratoires ou des services d'accompagnement sur mesure. Il suffit de remplir le formulaire en nous indiquant vos besoins. On a également nos coordonnées là, si vous voulez en savoir plus. Donc, tout se trouve sur le site web d'Altergo.
Audrey Beaudoin, chef d'équipe des services en accessibilité universelle chez Altergo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis à la prochaine.
Ben, merci à vous. Bonne journée.
Vous aussi.